Élie, première partie. Premier livre des rois, chapitre 16, versets 29 à 34, et chapitre 17, versets 1 à 24. Le prophète Élie marche de long en large, les sourcils froncés, les poings serrés. Il est très en colère. Le roi Achab n'a pas cessé d'offenser Yahvé, le Dieu d'Israël. Il est encore pire que ses prédécesseurs. Non seulement il a épousé Jézabel, fille d'un roi païen de la région de Sidon, mais en plus, il a fait construire dans tout le pays des stèles, sortes de colonnes à la gloire de Baal, le dieu de Jézabel, pour qu'on y dépose des offrandes. Il a fait aussi construire un temple, et tout le peuple se prosterne devant Baal, le maître de la pluie. De l'encens brûle jour et nuit devant cette idole. Son odeur se répand dans toute la ville. C'est insupportable. Cela ne peut pas continuer comme cela. Il faut faire quelque chose. Puisque Dieu ne se manifeste pas, Élie va parler au roi. Il va lui donner à réfléchir sur les pouvoirs véritables de ce dieu Baal. D'un pas décidé, il traverse les jardins qui montent vers le palais. Des cascades bondissent de chaque côté de l'allée principale. Elles remplissent une succession de bassins qui scintillent au soleil tels des diamants. Leur fraîcheur se répand sous la ramure, attirant des oiseaux de toutes sortes. Leur chant mélodieux envoûte les passants. Mais Élie ne se laisse pas séduire. Il ne voit que l'abondance de l'eau et la richesse qu'elle procure. Il accélère le pas et pénètre brusquement dans le palais. Le roi, en costume d'apparat, entouré de ses conseillers, regarde stupéfait cet homme agité qui s'avance vers lui d'un air menaçant et qui s'écrie « Par le Dieu vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie sauf à mon commandement. » Revenu de sa surprise, le roi reconnaît Élie. Mais il est déjà reparti aussi vite qu'il est venu. Élie est très fier de lui. Mais Dieu, au lieu de le féliciter, l'envoie aussitôt se cacher à l'autre bout du pays, à l'est du Jourdain, au torrent de Kérit. Dieu lui dit aussi, « Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonne à des corbeaux de te donner à manger là-bas. » Des corbeaux ! Non seulement Élie, en récompense de son action courageuse, est séparé des siens. Mais en plus, il doit attendre sa nourriture de corbeaux. Élie ne comprend plus rien. Lui, le serviteur fidèle de Dieu, lui qui défend ses intérêts, qui condamne les païens, les idoles, en fait tout ce qui est impur, doit recevoir sa nourriture d'êtres vivants impurs. Enfin, Dieu ne veut pas sa mort puisqu'il l'envoie près d'un torrent. Au moins, il ne risque pas de mourir de soif, contrairement à Achab. Après quelques jours de marche, à travers ce beau pays d'Israël, vallonné et verdoyant, Élie arrive au bord du torrent. Bercé par le ruissellement des eaux sur les cailloux, il attend les ordres de son Dieu. Il reçoit du pain chaque matin et de la viande chaque soir. Le temps s'écoule ainsi. Mais un matin, Élie se réveille angoissé. Il n'entend plus aucun bruit. Il se lève, il va vers le torrent. Il se penche. L'eau ne coule plus. Il touche les cailloux, ils sont secs. Il regarde désespérément le ciel. Aucune trace d'oiseau. La sécheresse est arrivée jusqu'à lui. C'est alors que dans le silence et dans le désarroi, Dieu s'adresse à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et tu y demeureras. Voici que j'ordonne à une veuve de te donner à manger là-bas. » Dieu ne l'abandonne pas, mais cette fois c'est encore pire. Il l'envoie en terre païenne, dans le pays de Jézabel, et chez une veuve, la personne la plus pauvre du village. Élie se met à nouveau en route. Il traverse le pays ravagé par la sécheresse. La terre craquelle sous ses pas. Sa langue gonfle. Son visage se creuse. La faim et la soif le tiraillent. Mais il garde l'espoir. Dieu l'a protégé jusqu'ici. Il ne le laissera pas mourir. Après une marche épuisante, il arrive à Sarepta. À l'entrée du village, Élie distingue sous les arbres clairsemés une femme encore jeune, vêtue de noir, maigre et pâle. Elle ramasse péniblement çà et là quelques petits morceaux de bois. Élie l'interpelle et lui demande de l'eau. La femme résignée obéit. Mais quand il lui demande du pain, elle se révolte. Pourquoi le Dieu d'Israël qu'elle ne connaît pas lui envoie-t-il cet étranger, maigre, sale, affamé, alors qu'elle est sur le point de mourir de faim avec son fils? Il ne lui reste plus qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche, à peine de quoi faire une galette. Mais Élie lui dit, ne crains rien, prépare-moi d'abord une galette que tu m'apporteras, et après tu en feras une pour toi et ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la face de la terre. La femme ne comprend rien, mais elle obéit, car de toute façon demain elle n'aura plus rien à donner à son fils et ils mourront. De retour dans sa maison, elle prépare une galette pour Élie. Mais en malaxant la pâte, elle s'aperçoit qu'elle peut en faire une deuxième. Toute joyeuse, elle rassemble ensuite les petits bois et les met dans la cheminée. Bientôt, la flamme pétille, les galettes embaument. Élie se repose enfin. Tous les trois savourent lentement, en silence, ces pains chauds, croustillants, délicieux. Les jours passent. Comme l'avait prédit Dieu par la bouche d'Élie, la farine et l'huile ne manquent pas. Mais aujourd'hui, Élie est inquiet. Le fils de son hôtesse n'est pas comme d'habitude. Ses yeux brillent anormalement. Ses joues sont trop rouges. De temps en temps, tout son petit corps tremble. Pendant le repas, il refuse de manger. Et tout à coup, il tombe à la renverse inanimé. Sa mère se précipite. Elle le prend dans ses bras, elle le secoue. Il ne bouge plus. Désespérée, elle s'adresse alors violemment à Élie. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Tu es donc venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Mais en même temps, elle serre de toutes ses forces le petit corps sans vie et le berce en sanglotant. Élie s'approche. Il veut prendre l'enfant, mais elle refuse. Alors, il le lui arrache et monte précipitamment dans la chambre haute. Là, il étend sur son lit le petit corps inanimé et invoque son Dieu. « Seigneur, mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à cette veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir son fils ?» Puis il s'étend trois fois sur l'enfant et s'adresse à nouveau à Dieu. « Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. » Et soudain, le petit corps tressaille. Élie se penche. Il sent l'haleine fraîche du petit sur son visage. Bouleversé, il le prend dans ses bras et redescend. Son pas rapide ébranle l'escalier de bois. En bas, la femme attend, le visage tendu. Élie lui redonne son fils. Il est vivant! À cette vue, la joie illumine son visage. Elle presse son fils contre sa poitrine et s'écrie « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » C'est la première fois qu'Élie est reconnu comme prophète, et il l'est par une veuve étrangère et païenne. Élie, deuxième partie. 3 ans. Ce fois-là, fait 3 ans qu'Élie a déclaré au roi Achab qu'il n'y aurait en Israël ni rosée ni pluie, sauf à son commandement. Et depuis, la sécheresse s'est installée dans cette terre. Et depuis, le roi Akab et la reine Jézabel continuent à prier leur dieu Baal, le soi-disant maître de la pluie. Pendant ce temps, Élie est resté fidèle au Seigneur, le Dieu d'Israël, même s'il ne comprend pas toujours ce qu'il lui demande. Par exemple, il l'a envoyé en terre païenne chez une veuve qui n'avait rien à manger. Eh bien, Dieu a accompli des miracles chez cette veuve par l'intermédiaire d'Élie. Mais aujourd'hui, le Seigneur demande à Élie de retourner en Israël, d'aller voir le roi Akab et de lui dire que la pluie va revenir sur la terre. Élie se met tout de suite en route. Au même moment, en Israël, le roi convoque son plus fidèle serviteur et ami, Obadiahou, le maître du palais. Obadiahou est inquiet. Pourquoi le roi le convoque-t-il à une heure aussi matinale? Aurait-il appris qu'il était en réalité un grand résistant? Obadiahou, tout tremblant, arrive dans la grande salle du palais. Le roi, seul, sans aucun conseiller, arpente la salle de long en large, la tête droite, l'œil fixe. Soudain, il s'arrête devant Obadiahou. Il dit : Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nos chevaux et nos mulets sont en train de mourir de faim et de soif. Nous devons partir à la recherche de sources et de torrents, car une armée sans chevaux ni mulets n'est plus une armée. Ils sortent, traversent les jardins du palais, jadis fourmillant de vie et maintenant envahis par la mort. Ils sortent de la ville et découvrent le pays transformé en désert de terre et de cailloux. Quelques arbres rabougris sont encore accrochés aux collines, mais pour combien de temps? Très vite, ils se séparent. Obadiahou, le cœur serré, voit partir son roi seul, sans aucune escorte, le dos courbé, les épaules tombantes. Lui-même part dans la direction opposée. Et soudain, au détour du chemin, il voit venir vers lui un petit homme sec, aux yeux flamboyants. Mais c'est Élie! Élie, celui qui a commandé la sécheresse! Obadiahou se prosterne et dit « Mon Seigneur Élie !» Mais Élie le relève et dit « Va voir ton roi et dis-lui qu'Élie est de retour. » Obadiahou refuse et dit « Tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant ton absence. Le roi t'a fait rechercher dans tout le pays et même dans les pays avoisinants. Il a promis des récompenses à ceux qui te trouveraient et des punitions à ceux qui te cacheraient. Pendant ce temps, la reine Jézabel a persécuté les prophètes de Dieu. Elle en a tué beaucoup, mais j'ai réussi à en cacher une centaine dans des grottes, et je leur apporte régulièrement du pain et de l'eau. Alors, si je veux dire au roi que tu es de retour, ton Dieu est capable de te transporter à l'autre bout du pays, et moi je serai mis à mort. Pour tout ce que j'ai fait, je serai mis à mort. » Mais Élie lui dit, « Aujourd'hui même, je me présenterai devant le roi. » Alors, Obadiahou part prévenir Akab. À cette nouvelle, il se redresse et court au-devant d'Élie. Dès qu'il le voit, il s'écrie, « Alors, c'est toi le fléau d'Israël ?» Mais Élie reste très calme et dit, « Non, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est à cause de toi si tous ces malheurs arrivent. Parce que, avec ta femme Jézabel, vous avez continué à adorer votre faux dieu Baal. Maintenant, tu vas rassembler tout le peuple en haut du mont Carmel et aussi les 450 prophètes qui mangent tous les jours à la table de Jézabel. » Le lendemain, avant le lever du jour, tout le peuple est rassemblé en haut du mont Carmel. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, tous maigres et pâles, habillés pauvrement. À côté d'eux, les 450 prophètes de Baal, gros et gras, avec leurs tuniques richement brodées, la tête haute, le regard méprisant. Élie s'approche du peuple et dit, « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Jusqu'à quand prierez-vous un jour Baal, un jour votre Dieu? Si Baal est votre Dieu, suivez-le. Si le Seigneur est votre Dieu, suivez-le. Je suis resté seul prophète de Dieu. devant les 450 prophètes de Baal. Je propose maintenant qu'on fasse un sacrifice. Amenez-moi 2 jeunes taureaux. Nous allons les sacrifier sur nos autels. Mais nous n'y mettrons pas le feu. C'est notre Dieu qui mettra le feu. Puisque vous êtes les plus nombreux, vous allez commencer. Les 450 prophètes entourent l'autel de Baal. Ils disposent le bois, ils égorgent le taureau. Son sang jaillit et retombe sur l'autel. Puis ils se mettent à murmurer. « Ô Baal, réponds-nous ! Ô Baal, réponds-nous » Mais leur Dieu n'envoie pas le feu. Le soleil commence à monter dans le ciel. Les prophètes se balancent d'un pied sur l'autre en murmurant « Ô Baal, réponds-nous » À midi, Élie se moque d'eux et leur dit « Parlez plus fort ! Votre Dieu est peut-être sourd, ou bien il est parti en voyage, ou bien il a autre chose à faire. » Alors les prophètes se mettent à crier. La sueur coule le long de leur visage. Ils retirent leur tunique et se tailladent le corps. Leur sang jaillit et se mélange au sang séché du taureau. Mais leur Dieu ne met pas le feu. À 4 heures, l'heure des offrandes, Élie dit au peuple « Approchez-vous de moi ». Il reconstruit l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il rassemble les 12 pierres qui représentent les 12 tribus des 12 fils de Jacob que Dieu avait appelé Israël. Puis il creuse un canal assez large tout autour de l'autel. Il dispose le bois, il égorge le taureau. Il dit alors au peuple, « Apportez-moi 4 jarres d'eau. » Il verse l'eau sur le taureau, le sang, et l'eau coule le long du bois. Mais il dit « Doublez !» Il verse 8 jarres d'eau qui se répandent sur l'autel. Il dit « Triplez !» Et ce sont 12 jarres d'eau qu'Élie verse sur le taureau. L'eau remplit alors le canal tout autour de l'autel. Dans le peuple, certains commencent à murmurer « Mais il est fou ! Il a pris toute l'eau de la réserve, nous allons mourir de soif !» D'autres disent « Le taureau et le bois sont gorgés d'eau, même si Dieu envoie le feu, il ne pourra pas brûler. » Élie s'adresse à son Dieu. « Seigneur, réponds-moi, montre au peuple que c'est à ta parole que j'ai accompli toutes ces choses. Montre au peuple que tu es le seul vrai Dieu et que toi seul peux ouvrir le cœur de l'homme. » C'est alors qu'un feu terrible s'abat sur le taureau. Il brûle le taureau, il brûle le bois, il brûle même les pierres de l'autel. Il absorbe l'eau du canal. Tout le peuple se prosterne contre terre en disant « Le Seigneur est le vrai Dieu, le Seigneur est le vrai Dieu !» Et il se redresse les yeux brillants de fierté. Pendant ce temps, les 450 prophètes de Baal, tout tremblants, se tournent de tous côtés affolés. Ils cherchent à fuir. Mais Élie dit au peuple « Saisissez-les et que pas un ne réchappe !» Et en bas de la montagne, dans le torrent qui est à sec, Élie égorge les 450 prophètes de Baal pour être sûr qu'il n'y aura plus jamais d'idole. Élie s'adresse ensuite à Akan. « Monte, mange et bois, car j'entends le grondement de la pluie. » Lui-même monte et se prosterne la tête entre les genoux, puis il dit à son serviteur, « Monte au sommet du mont Carmel et regarde du côté de la mer si la pluie arrive. » Le serviteur revient et dit, « Je ne vois que le ciel bleu et le soleil. » Alors Élie lui dit, « Monte 7 fois. » La 7e fois, le serviteur dit, « Je vois un tout petit nuage, grand comme le dos de la main. » Élie dit au roi, « Descends vite et pars sur ton char, car la pluie arrive et tu risques de t'embourber. » À ce moment-là, le ciel devient tout noir, et une pluie torrentielle tombe sur la terre. Élie court devant le char d'Akab vers Israël. Mais Élie a-t-il vraiment rempli la mission telle que la lui avait donnée Yahvé? Va-t-il un jour reconnaître le vrai visage de Dieu? Élie, 3e partie. Depuis des jours et des jours, le prophète Élie marche dans le désert, sous un soleil brûlant. Il est seul, épuisé, abandonné de tous, alors qu'il a tout fait pour que le Seigneur soit reconnu comme le plus puissant, le plus fort. Et ça a marché. Élie vient de vivre une scène extraordinaire en haut du Mont Carmel. La toute-puissance de Dieu s'est manifestée sur sa demande à lui, Élie, et pour la première fois, le peuple d'Israël a reconnu que le Seigneur était le seul vrai Dieu. En récompense, Élie est menacé de mort et Dieu est muet. Élie avance de plus en plus courbé. Ses pieds butent sur les pierres du chemin. De temps en temps, il titube. Il continue à penser. Mais qui est ce Dieu pour lequel il a consacré toute sa vie et qui le laisse mourir, lui, son dernier prophète? Élie n'en peut plus. Il n'a plus rien à manger ni à boire. Sa vie ne sert plus à rien. Il s'étend sous un petit arbre, seule végétation au milieu de cet immense désert, et il s'endort. C'est alors que du plus profond de son sommeil, il sent comme une main qui le touche. Il entend dans sa tête une voix qui lui dit « Lève-toi, mange et bois !» Au même moment, Élie sent une bonne odeur de pain chaud. Il entr'ouvre les yeux et aperçoit sur une pierre des petits pains ronds et dorés, et à côté une gourde d'eau. Il prend la gourde et il boit. L'eau fraîche coule le long de sa gorge et le rafraîchit tout entier. Puis il mange les petits pains qui craquent sous ses dents. Et il se rendort. Mais au bout d'un certain temps, la voix retentit à nouveau dans sa tête, encore plus fort. Il entend « Lève-toi, mange et bois, car tu as une longue route à faire. » Alors il se lève, plein de courage. Il mange, il boit, il se remet en route. Il sait maintenant qu'il n'est plus seul. C'est peut-être Dieu qui l'appelle, qui se souvient de lui. Au bout de 40 jours et 40 nuits, Élie arrive à la montagne de Dieu. Tout en haut de la montagne, il se réfugie dans une grotte, encombrée de broussailles. Il s'allonge sur le sol et passe la nuit. Au lever du soleil, Élie entend la parole du Seigneur. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie répond « Je suis rempli d'amour pour mon Dieu. Je lui ai consacré toute ma vie, mais le peuple a abandonné ton alliance. Il a tué tes prophètes. Je suis resté seul. » Et ils veulent me mettre à mort. Élie entend alors encore une voix qui lui dit « Tiens-toi dans la montagne devant Dieu, car il va passer. » Élie reste dans la grotte. Il attend que Dieu se manifeste. Soudain, le ciel devient tout noir. Un vent violent tourbillonne autour de la montagne, arrachant tout sur son passage. Ce vent pénètre dans la grotte et plaque Élie contre la paroi du rocher. Des éclairs balayent le ciel tandis que le tonnerre gronde de plus en plus fort. Mais Dieu n'est pas dans l'ouragan. Puis, la montagne tout entière tremble violemment. Un fracas épouvantable retentit. Les rochers se fendent et tombent les uns sur les autres. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement du terre. Voici qu'Élie, terrorisée, voit des petites flammes jaunes et rouges tout autour de la montagne. Elles montent à toute allure vers lui. Une terrible odeur de brûlé se répand dans l'air. La fumée l'étouffe. Mais Dieu n'est pas dans le feu. Et soudain, tout se tait. Un grand silence envahit la montagne. Élie attend. C'est alors qu'il sent sur sa joue comme un léger souffle, une toute petite brise légère. Élie sort de la grotte et se voile la face avec son manteau. Alors la même voix s'adresse à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répond avec toute sa fougue « Je suis rempli d'amour pour Dieu. Je lui ai consacré toute ma vie. Mais le peuple a abandonné ton alliance, il a tué tes prophètes. Je suis resté seul et ils veulent me mettre à mort. » Dieu lui dit « Va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Tu sacreras Azaël comme roi d'Aram et Jéhu comme roi d'Israël. Puis tu sacreras Élisée comme prophète à ta place. » Élie est à nouveau plein de courage. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il s'est adressé à lui tout seul. Élie est prêt à le servir jusqu'au bout. Il est désormais passionné de ce Dieu-là, ce Dieu qui se révèle dans le silence et qui parle au cœur de l'homme. Ces trois passages d'Élie sont dans le livre des Rois, du chapitre 16 au chapitre 19.